Bonjour chers auditeurs, vous écoutez La Bible en question. Au micro Catherine Mann et Anne-Marie Arbitre. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Catherine, bonjour à tous, ravie d'être avec vous.
Voilà, nous continuons d'explorer le thème que nous avons choisi cette année, le corps dans la Bible. Et lors de l'émission précédente, nous nous sommes arrêtés sur le symbolisme des genoux, constatant que l'on tombe à genoux pour implorer Dieu ou parfois un être humain, pour en attendre une bénédiction, il y a un petit jeu de mots en hébreu, ou une grâce, et aussi comme geste d'adoration, d'admiration. Mais ce ne sont pas les seules significations possibles de l'agenouillement. Fléchir le genou devant quelqu'un, c'est également exprimer une certaine crainte, comme Pierre qui tombe à genoux devant Jésus après la pêche miraculeuse, on voit dans l'évangile de Luc au chapitre 5. Et c'est aussi souvent dans la Bible reconnaître une infériorité, accepter une soumission. On doit plier les genoux devant les grands personnages, les rois et les puissants du monde païen. Un bon exemple se trouve au chapitre 3 du livre d'Esther, les versets 1 et 2 que je vous lis. Le roi Assuérus donna une haute situation à Haman. Il l'éleva et le fit siéger au-dessus de tous les ministres. Tous les serviteurs présents à la porte royale s'agenouillaient et se prosternaient devant Haman comme le roi l'avait commandé.
Oui, et c'est là que l'on comprend que pour le peuple juif, la signification de l'agenouillement est importante. Mardoché, l'oncle de la reine Esther, refuse de plier le genou. Hein, on voit ça donc versets 2, 3 et 5. Je vous les lis. Mais Mardoché ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas. Les serviteurs du roi dirent « Pourquoi attendrais-tu le commandement du roi ?» Voyant que Mardoché ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas devant lui, Haman fut rempli de fureur. Voilà, et c'est pourquoi Haman voulut faire exterminer tous les Juifs présents en Perse. Mais heureusement, la reine Esther arriva à faire échouer le projet. On voit à la fin du livre d'Esther que cet événement sera institué en fête importante du judaïsme. Et c'est cette fête, dit du Pourim, qui est depuis célébrée chaque année jusqu'à nos jours. Tout cela pour une question d'agenouillement refusé. En fait, le juif Mardoché n'acceptait pas de fléchir le genou que devant son Dieu. Et il refusait de donner à un homme la même importance qu'à Dieu. Le prophète Daniel également a eu des problèmes avec à Babylone quand il lui fut interdit de prier son Dieu pour réserver les prières au seul roi Darius.
Oui, mais ici c'est l'inverse. Donc, oui. On interdit la prière à Daniel pour qu'il soit uniquement à genoux devant le roi Darius. Voici ce que dit le texte, c'est le chapitre 6 du livre de Daniel, le verset 11. « Lorsque Daniel sut que ce décret avait été signé, il entra dans sa maison. » Celle-ci avait des fenêtres à l'étage supérieur qui s'ouvraient en direction de Jérusalem. Trois fois par jour, il se mettait à genoux et il priait, et faisait monter ses louanges vers son Dieu comme il faisait auparavant. Donc Daniel désobéit et bien sûr fut découvert et condamné, vous connaissez peut-être l'histoire, à la fosse aux lions. Mais il fut sauvé par Dieu lui-même qui empêche les lions de le dévorer. Grâce à ce texte, on découvre comment on priait au IIe siècle avant notre ère, à genoux, trois fois par jour, tourné vers Jérusalem. S'agenouiller devant Dieu est donc un geste que les chrétiens ont hérité du judaïsme. Il signifie à la fois le respect, l'adoration et l'humilité, à condition bien sûr que ce geste vienne du profond du cœur, avec sincérité et surtout librement. Pour un chrétien, en tout cas, il est difficile d'imaginer que le Christ puisse exiger de ses fidèles une humiliation et une soumission comme le faisaient les anciens potentats païens. Ce serait oublier que le Christ a voulu libérer les hommes et les aider à se mettre debout.
Oui, et comme tous les gestes que nous faisons dans la liturgie, il faut que nous en soyons complètement conscients et qu'il y ait du sens pour nous, pour nos vies. Nous devons craindre les habitudes machinales, routinières, surtout si on les subit comme des obligations extérieures, imposées quelquefois par une discipline ecclésiastique qui exigerait des pratiquants bien soumis. Alors, on peut penser que Dieu ne se laisse pas tromper hein, par les génuflexions de pure formalité et que c'est la sincérité de l'intention qui est derrière hein, que Dieu perçoit. Alors, se mettre à genoux peut être un geste important qui nous aide à trouver une bonne disposition d'esprit pour rencontrer Dieu. Mais se tenir debout, avec dignité, les jambes bien droites, peut aussi être un signe de respect, de reconnaissance des bienfaits du Seigneur, puisque c'est lui hein, qui nous a donné cette verticalité. Et c'est saint Irénée qui a dit « La gloire de Dieu, c'est l'homme debout ». Cela aussi a de la valeur. Et dans les Cantiques des Cantiques, hein, il est écrit aussi, ça décrit mieux la beauté de l'homme debout, hein, au chapitre 5, verset 15. « Ses jambes sont des piliers d'albâtre fondés sur des socles d'or fin ». Alors ce thème hein, des jambes comme des piliers se retrouve aussi pour la femme, hein, la femme vertueuse dont parle le livre de Siracide, notamment au chapitre 26, verset 18. Pardon. Des colonnes d'or sur des bases d'argent, ainsi ses belles jambes sur des talons solides.
Voilà, l'homme, la femme ont des belles jambes droites et en métaux précieux, mais il y a aussi les anges qui ont des jambes comme des colonnes. On voit dans l'Apocalypse de Jean, chapitre 10, verset 1, « Un ange puissant qui descendait du ciel, ses jambes comme des colonnes de feu. » Ou encore au début du livre d'Ézéchiel, le prophète, dans la vision des quatre vivants du début du livre, « Chacun d'eux avait quatre visages et quatre ailes, et leurs jambes étaient bien droites. » Donc ce thème des jambes bien droites est un signe de solidité des fondations, qui sont symboliquement les appuis sur Dieu et sur sa loi. Et il me semble que ça éclaire aussi le moment de la crucifixion de Jésus, quand les soldats veulent briser les jambes de Jésus. Ils en sont empêchés. Peut-être aussi parce qu'on ne peut pas, en fait, supprimer les fondements divins de la personne du Christ. C'est ce qui explique aussi les miracles accomplis pour les impotents dans le Nouveau Testament, par exemple, en Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 8. Il se trouvait à Lystre un homme qui ne pouvait pas se tenir sur ses pieds. Étant infirme de naissance, il n'avait jamais marché. Un jour qu'il écoutait Paul parler, celui-ci fixa son regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il dit d'une voix forte « Lève-toi, droit sur tes pieds ». L'homme bondit, il marchait. Donc dans ce miracle-là, c'est bien la foi de cet homme qui a permis sa guérison. C'est parce qu'il retrouve ses appuis sur Dieu qu'alors il peut se tenir droit et marcher selon les commandements. Alléluia, alléluia, t'adonai min ha-shamayim, alléluia, b'amlamim, alléluia, kol malachav, alléluia, kol tzevachav, alléluia, shemesh v'yarech, alléluia, kol kovegol, alléluia, shemer ha-shamayim, zeramayim, asher megah ha-shamayim. Ben nevo Vous écoutez Radio Grand Ciel, l'émission La Bible en question. Et avant la pause, nous étions en train de constater que le symbolisme des jambes bien droites et solides avait de l'importance pour dire la capacité de l'homme et de la femme à se tenir devant Dieu avec droiture et à marcher selon la justice et la vérité. L'image qu'emploie la Bible pour parler des jambes vigoureuses est celle des piliers, de colonnes faites de métal précieux, comme l'or ou l'argent. Mais nous trouvons aussi une évocation d'un autre métal dans une vision du prophète Daniel. Chapitre 2, versets 31-32, vision assez connue. « Voici une grande statue, très grande, et sa splendeur extraordinaire. Elle avait la tête d'or fin, la poitrine et les bras d'argent, le ventre et les cuisses de bronze, les jambes de fer, et les pieds en partie de fer et en partie d'argile. » Alors, cette vision, qui est connue sous le nom de Colosse aux pieds d'argile, est célèbre parce qu'elle raconte la décadence d'une civilisation qui finit par s'effondrer parce que ses bases n'ont plus aucune solidité. Le fer n'est plus un métal noble, surtout mélangé à l'argile, comme le décrit Daniel pour les pieds de la statue. Quand les fondements, les jambes, sont ainsi incertaines, Dieu suscite une nouvelle civilisation qui vient anéantir l'ancienne et la remplacer.
Et les pieds sont donc une partie essentielle du symbolisme du corps, puisqu'ils ont à soutenir l'ensemble des membres. C'est la vision de Saint Jean, hein, dans l'Apocalypse. Il nous dit que les pieds du Fils de l'homme, si on reprend le chapitre 1, verset 15, semblaient d'un bronze précieux purifié au creuset, ce qui évoque à la fois la noblesse et la solidité du métal. Et cela doit nous inciter à la confiance en ce Fils de l'homme, qui est aussi le Fils de Dieu, comme le dit au chapitre 2, verset 18, car ses appuis sont inébranlables. Ce sont aussi les pieds qui permettent la marche, et nous dit le livre des Proverbes, qui sont responsables de la direction que prend l'homme. Dieu a en horreur, on voit ça au chapitre 6, verset 18, les pieds empressés de courir vers le mal. Et c'est pourquoi le livre du Siracide recommande, je vous lis dans le chapitre 6, verset 36, « Si tu vois un homme intelligent, cours à lui dès le matin, que ton pied use le seuil de sa porte. » Cette apparente autonomie des pieds se retrouve aussi chez Isaïe, qu'on peut voir dans le chapitre 52, verset 7. Je vous le lis. « Qu'ils sont beaux sur la montagne, les pieds du messager qui annonce la paix, du messager de la bonne nouvelle qui publie le salut. » Là, c'est la traduction littérale de l'hébreu. C'est un petit peu étonnant de mettre ainsi en valeur les pieds du messager plutôt que ce qui sort de sa bouche.
Oui, c'est ce qui prouve que la tradition biblique donne de l'importance à toutes les parties du corps. Chacune a son rôle à jouer et est donc digne de respect. Saint Paul développera d'ailleurs cette thèse dans sa première lettre aux Corinthiens, le chapitre 12. Il prend l'image du corps humain pour parler du corps de l'Église. « Unis dans le Christ ». Voici ce qu'il dit, versets 20 et 21. « Il y a donc plusieurs membres, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». Ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Et il faut bien reconnaître qu'à l'époque où furent écrits les textes de la Bible, les pieds travaillent beaucoup et sont soumis à rude épreuve. Parce que tous les déplacements à peu près s'effectuent à pied, avec des sandales assez rudimentaires, et parfois même pas du tout, sur des chemins caillouteux et accidentés. C'est pourquoi on accorde beaucoup d'attention aux pieds. Ils sont fragiles et importants dans la vie quotidienne. La preuve amusante, c'est le miracle que raconte le livre de Néhémie, chapitre 9, verset 21. Néhémie parle à Dieu en se souvenant de l'Exode. Voici ce qu'il dit. « Pendant 40 ans, tu as assuré, sous-entendu au peuple hébreu, la subsistance dans le désert. Ils n'ont manqué de rien. Leurs vêtements ne se sont pas usés et leurs pieds n'ont pas enflé. » Voilà, c'est là, dans Néhémie, le comble du miracle. Pas d'enflure des pieds pendant 40 ans dans le désert.
Alors, cette enflure habituelle est certainement à l'origine d'un des rites essentiels de l'hospitalité, qui est de prendre soin des pieds des visiteurs. Nous voyons par exemple dans l'histoire de Joseph, en Genèse 43, quand ses frères viennent le rejoindre en Égypte. Je vous lis le verset 21. « L'homme introduisit les gens dans la maison de Joseph. Il leur apporta de l'eau pour se laver les pieds et donna du fourrage à leurs ânes. » Le plus souvent, quelqu'un se charge de laver les pieds, généralement un esclave. Mais pas forcément, car cela dépend en partie de la personne que l'on reçoit. Et si on désire particulièrement l'honorer, ou au contraire pour montrer un désir de servir. Alors comme par exemple dans le premier livre de Samuel, l'histoire du mariage d'Abigaël avec le roi David. Donc ça, on peut le trouver donc au chapitre 25, versets 39 à 41. Je vous les lis. Les serviteurs de David se rendirent chez Abigaël, à Carmel, et lui parlèrent en ces termes. « David nous a envoyés chez toi pour te prendre pour femme. » Elle se leva, se prosterna la face contre terre et dit « Ta servante est une esclave prête à laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. » Donc on voit que la future épouse du roi est donc prête à laver les pieds des serviteurs pour montrer sa bonne volonté.
Oui, on peut se dire que c'est peut-être une simple formule de politesse, mais ça nous dit en tout cas que les esclaves chargés du lavement des pieds pouvaient être des femmes, et que dans certains cas, l'épouse elle-même pouvait s'acquitter de cette tâche, et parfois le maître de maison, il faut quand même reconnaître. Mais il faut avouer que c'est une fonction de laveur de pieds considérée comme vraiment très inférieure. Cependant, elle a permis de laver les pieds de Dieu lui-même, si on en croit l'épisode de la Genèse, dit des chaînes de membrées, Genèse 18, versets 1 à 4, le Seigneur apparut à Abraham aux chaînes de membrées, alors qu'il était assis à l'entrée de la tente dans la pleine chaleur du jour. Il leva les yeux et aperçut trois hommes debout près de lui. À leur vue, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre, se prosterna à terre et dit « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, veuille ne pas passer loin de ton serviteur. Qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. » Voilà, les trois hommes à qui on lave les pieds sont soit trois anges, soit, comme dit le chapitre 19, Dieu et deux anges. Donc c'est un événement en soi assez extraordinaire. Un Dieu qui met les pieds sur terre et qui accepte que la poussière du sol le salisse. Vous écoutez Radio Grand Ciel, l'émission La Bible en question, et nous nous interrogeons sur le symbolisme du corps dans la Bible. Nous sommes à présent en train de parler des pieds et des soins qu'on leur réservait. D'abord comme rite d'hospitalité, en lavant les pieds des voyageurs qui arrivaient tout recouverts de poussière des chemins. Et il y a d'ailleurs une expression que l'on retrouve dans les évangiles et dans les actes, c'est l'expression « secouer la poussière des pieds ». Saint Matthieu cite cet enseignement de Jésus au chapitre 10, verset 14. « Si l'on ne vous accueille pas et si l'on n'écoute pas vos paroles, en quittant cette maison ou cette ville, secouez la poussière de vos pieds. » En fait, ce geste est habituel et il est symbolique dans le monde antique de signifier une rupture. Il montre qu'on ne veut rien emporter avec soi d'un endroit qui ne s'en montre pas digne, rien, même pas une petite poussière. Ce texte nous confirme, s'il le fallait, que les pieds étaient continuellement salis et malmenés par l'inconfort des chemins.
Certains, certains. Et un autre petit passage de la Bible nous montre que les soins des pieds allaient plus loin que simplement les laver avec de l'eau. Pourtant assez rare quand même, quelquefois, dans ces contrées. On le trouve dans le livre de Job, au chapitre 29, où Job se souvient de son bonheur d'autrefois, donc avant d'être frappé par un destin hostile. Et voici ce qu'il dit selon les versets 4 à 6. « Quand l'amitié de Dieu reposait sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes fils m'entouraient, je me lavais les pieds dans la crème et que le rocher me versait des ruisseaux d'huile. » Alors on voit, hein, voilà, comment les gens aisés prenaient soin de leurs pieds, ils les peignaient dans la crème. On imagine bien une nature exubérante qui nourrit tellement bien le bétail qu'il donne une surabondance de lait, tant qu'on peut employer du surplus pour le soin des pieds. Mais c'est là un privilège de riche quand même. Hein. Et on pense que même laver les pieds avec de l'eau était réservé aux hôtes les plus importants pour ne pas gaspiller inutilement l'eau, il faut bien le dire. C'était autant un hommage qu'un décrassage.
Alors, avec tout ce qu'on vient de lire, que penser du lavement des pieds institué par Jésus ? Était-ce pour honorer ses disciples ou pour soigner leurs pieds meurtris ? Peut-être un peu des deux. Mais ce qui est certain, c'est qu'en lavant les pieds de ses disciples, Jésus renverse les rôles. C'est lui, le Seigneur et le Maître, qui prend un rôle d'esclave, se mettant à leur service. Il s'humilie volontairement en acceptant une tâche qui était la plus basse de toutes, souvent même accomplie par des femmes, ce qui est sans doute un comble de l'humiliation pour lui à cette époque. Alors qu'il était habitué à recevoir les hommages partout où il passait, je pense dans l'évangile de Luc, cette scène chez Simon le pharisien où une femme, c'est chapitre 7 de chez Luc, verset 38, une femme tout en pleurs aux pieds de Jésus, se mit à baigner ses pieds de ses larmes, et elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux du parfum. Cette femme reconnaissait la puissance de Jésus, puisqu'il lui dit ensuite « Va, tes péchés sont pardonnés ». Cette femme reconnaissait ce que tous les Juifs ont reconnu aussi quand Jésus fait une entrée à Jérusalem, une entrée triomphale, que nous célébrons au rameau, comme un roi. On jette sous ses pieds des branches d'arbres, des feuilles de palmier, et même la foule étend des vêtements sur la route. C'est un rite pour les rois. Et cet homme, honoré comme un roi, le voici à genoux devant ses disciples pour leur laver les pieds.
Oui. Le lavement des pieds, qui n'est raconté que dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, se situe au cours du dernier repas que Jésus partage avec ses disciples avant la fête de la Pâque, hein, quand Jésus sera crucifié. Et pour les disciples eux-mêmes, ce geste n'est pas facile à comprendre, si on en croit ce dialogue avec Pierre. Hein, je vous relis selon l'évangile de Jean, chapitre 13, versets 6 à 8. Il arrive à Simon-Pierre, qui lui dit « Toi, Seigneur, me laver les pieds ?» Jésus lui répond « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais par la suite, tu comprendras. » Pierre lui dit « Me laver les pieds à moi, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu ne peux avoir part avec moi. » En effet, le geste symbolique sera suivi d'une explication un petit peu plus loin, donc chapitre 13 toujours, versets 13 et 14. « Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres. » Car c'est un exemple que je vous ai donné. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le aussi, vous aussi. » Le geste de Jésus n'a pas vraiment un sens de purification, là, ou de propreté. C'est plutôt un exemple d'amour qui assume le service aux plus humbles.
Oui, un service de bas étage. Les pieds nous rappellent notre condition de terrien, notre contact avec le réel. C'est finalement le lieu où la spiritualité s'engage dans la matière concrète. Le geste de Jésus est là pour guérir les blessures que la vie nous inflige, mais aussi pour, comme on a vu précédemment, le sens de permettre à nos pieds de marcher sur le bon chemin et de garder la bonne direction. Le rite du lavement des pieds le jeudi saint a toujours eu énormément d'importance dans l'Église. C'est une obligation pour tous les prêtres et même pour le pape. Cela fait partie des symboles de leur mission, qui est d'être au service des besoins spirituels de tous leurs fidèles. Et à certaines époques, ce rite prit tellement d'importance que les clercs qui refusaient d'accomplir le lavement des pieds étaient sévèrement punis. À part ça, on trouve dans la Bible beaucoup d'expressions qui montrent l'importance des pieds pour la vie spirituelle. On les trouve surtout dans les psaumes. Alors, on a toute une série. Je commence par le psaume 72, verset 2. « Un rien et je perdais pied, un peu plus et je faisais un faux pas. » Ou une autre expression, psaume 90, versets 11 et 12. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres.
Oui, je vais prendre la suite. Donc le psaume 93, verset 18. Quand je dis « Mon pied trébuche, ton amour, Seigneur, me soutient. » Dans le psaume 114, verset 7-8. « Retrouve ton repos, mon âme, car le Seigneur t'a fait du bien. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds des faux pas. » Mais il y a surtout cet enseignement de Jésus qui est rapporté à l'évangile de Marc, hein, chapitre 9, verset 45. « Si ton pied entraîne ta chute, coupe-le. Il vaut mieux que tu entres estropié dans la vie que d'être jeté avec tes deux pieds dans la géhenne. » Voilà donc le pied clairement identifié comme cause possible de péché, symboliquement bien sûr. Il faut faire remarquer que ce qui fait trébucher, tomber sur les chemins d'Israël, ce sont les cailloux. Or, le caillou qui fait chuter s'appelle en grec un scandalon, ce qui donne en français le mot scandale. D'où les traductions difficiles de Matthieu, notamment donc chapitre 18, verset 7. Malheur au monde à cause des scandales. Il est fatal qu'arrivent des scandales, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Alors, le verset dans la Tobe est traduit autrement, plutôt par « Malheureux le monde qui cause tant de chutes. Certes, il est nécessaire qu'il y en ait, mais malheureux l'homme par qui la chute arrive. »
Voilà, il faut essayer de ne pas être des cailloux les uns pour les autres. Et malheureusement, nous arrivons à la fin de notre temps d'antenne et nous reprendrons cette réflexion sur l'importance symbolique des pieds dans la Bible. La prochaine fois, nous vous disons au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt.
Au revoir, à bientôt.
Your dog, I don't know, you call him,